Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon à la présentation. Bonsoir à tous. Au Mali, l'imam Mahmoud Diko a lancé ce samedi son mouvement, la coordination des mouvements, associations et sympathisants. C'était lors d'un rassemblement largement considéré comme manifestant les visées politiques de ses tenants d'un islam rigoriste et bête noire du pouvoir. Il a à cette occasion dénoncé le gouvernement catastrophique du pays. Ce lancement active les spéculations sur les velléités présidentielles de l'imam Mahmoud Diko et est considéré par certains comme un défi lancé à l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali est confronté depuis des années à une profonde crise sécuritaire. Les États-Unis ont salué l'échange historique de prisonniers intervenus ce samedi entre la Russie et l'Ukraine, affirmant espérer qu'il s'agisse du début d'une nouvelle dynamique vers une résolution du conflit. Kiev et Moscou ont procédé à un échange sans précédent de 70 prisonniers, parmi lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont la libération par les autorités russes était exigée par la communauté internationale, et 24 marins ukrainiens dont la Russie a capturé les navires au large de la Crimée en novembre, au cours du plus grave affrontement direct entre les deux pays depuis des années. Cet échange pourrait marquer un premier rapprochement après 5 ans de conflit.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et on reparle de la mort de Robert Mugabe, héros de l'indépendance. Il a tenu le Zimbabwe d'une main de fer durant 37 ans. L'ancien président Robert Mugabe est donc décédé vendredi à 95 ans à Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. De nombreux pays africains ont rendu un hommage appuyé et unanime au libérateur du Zimbabwe. Eric Manirakiza a recueilli la réaction d'Amara Essi, ancien ambassadeur ivoirien à l'ONU, qui a bien connu Robert Mugabe.
Je l'ai connu puisque j'étais ambassadeur aux Nations Unies. On avait affaire à tous les mouvements de libération, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'ANC. Il était souvent avec nous et c'est un homme de conviction. Et il avait du courage. Il disait franchement ce qu'il avait à dire. L'une des figures proues de la lutte pour la décolonisation. Comme dit l'adage, même si on n'aime pas le lièvre, il faut savoir qui sait courir. En tout cas, c'est une personnalité, un patriote, un défenseur des droits des peuples africains, un père et un grand homme. Il a été un key player pour non pas seulement le Zimbabwe, mais pour tous les mouvements. Libération en Afrique australe. À l'époque, on était souvent avec lui, avec Makatini de l'ANC, Ben Gourirab, la SWAPO, des figures vraiment qui ont fait la fierté de l'Afrique.
C'était quel genre de personnalité et comment ses pairs l'ont considéré?
Je ne dirais pas qu'il était craint, mais disons que sa voix comptait. C'est le seul qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat quand il fallait le faire. Je crois pour lui, la dignité de l'Afrique passait avant tout. L'honneur, la dignité de l'Afrique, et je crois que c'était son credo et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, ce sont des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Dans toutes les réunions, il ne passait pas inaperçu. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a marqué son temps.
En ce qui concerne l'accord de Manchester House sur le financement de l'expropriation de la réforme agraire, les promesses britanniques non tenues.
Oui, c'est ce qui a motivé, disons, la nationalisation de toutes ces propriétés. Est-ce que ça a été une bonne chose? Mais en fin de compte, apparemment, les Britanniques étaient un peu responsables. Tout le monde dit que, bon, qu'en fin de compte, ils n'ont pas tenu leur engagement. On a vu les conséquences dommageables après pour les Zimbabwe. Donc, de part et d'autre, les responsables sont partagés. Le côté britannique n'a pas créé les conditions pour que vraiment les choses puissent évoluer telles qu'ils avaient été planifiées. Et d'un autre côté aussi, bon, cette nationalisation des propriétés qu'on a donnée à des gens qui n'ont aucune culture de fermier. Donc il y a eu des conséquences vraiment négatives sur l'économie du Zimbabwe. C'est dommage. Je crois que d'ailleurs cela a servi d'exemple à la situation en Afrique du Sud. Ce sont des leçons qu'il faut tirer de tout ce qui a été fait de positif et de négatif.
Quelle aura été l'erreur, disons, de Mugabe?
C'est avoir nationalisé les terres des fermiers blancs et le donner à des personnes qui n'ont aucune connaissance d'agriculteur. On ne peut pas improviser, il fallait les former. Ça n'a pas été fait, donc ça a été une erreur. Sous Ian Smith, la Rhodésie du Sud était vraiment le grenier de l'Afrique. Avec l'embargo, avec les sanctions, Ian Smith avait vraiment développé une économie auto-centrée, autonome, dans tous les domaines. Donc ils avaient quand même un capital à hériter pour avancer. Donc malheureusement, les choix politiques n'ont pas été conséquents. Et ce sont des erreurs qui ont été commises. Bon, l'Afrique du Sud peut-être va inspirer dans le cadre de la promesse faite aux Noirs.
Fin de ce bulletin d'information présenté par John Lyndon. Je vous reviens dans 55 minutes pour d'autres infos sur VOA Afrique. D'ici là, restez à l'écoute. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.